Bonsoir, bonjour.
Voilà, donc on arrive à la leçon 5 aujourd'hui, mais comme toujours, j'ai encore à rattraper un grand morceau de la leçon 4. Donc j'espère que vous allez les mêmes, parce qu'autrement... Voilà. Et donc en fait, la dernière fois, on avait eu une première partie du cours qui donnait un peu des contextes. En général, on a parlé des banques et des liquidités. Et on a aussi donné une brève description des caractéristiques du système financier européen par rapport au système financier américain. Et on a commencé, sous la base de ce contexte, en fait, on a commencé les récits de la crise à partir de 2007, et donc de la crise des liquidités du mois d'août 2007, et donc les premiers symptômes de la crise financière européenne. Et voilà, dans ces graphiques, vous avez les tensions qui se manifestent avec l'écart entre les taux d'intérêt Euribor et les taux d'intérêt Eurepo, qui en fait c'est un taux d'intérêt Eurepo que c'est secure, ça veut dire que c'est garanti, donc c'est sur des prêts garantis, et ça c'est sur des prêts non garantis. Donc l'écart, c'est un symptôme de l'appétit au risque. Vous voyez ici, ça c'est la crise avant la faillite de Lehman Brothers, donc 2007, la deuxième partie de 2007. Et il y a une énorme augmentation du risque à partir de la default de Lehman Brothers en septembre 2008. Donc, dans ces parties-là, on a parlé, on a décrit l'intervention de la BCE comme une intervention qui remplace l'activité du marché monétaire interbancaire. Donc ici, c'est une description très simple du marché monétaire interbancaire. Donc c'est un marché dans lequel les banques ils prêtent entre eux à très court terme. Et donc, ça, c'est une source très importante du financement des banques en Europe. En fait, vous aviez donné des données en ce sens-là. Et donc, avec la crise des liquidités, on peut décrire la crise des liquidités comme une espèce d'interruption de cette lymphe vitale du financement bancaire. Et à ce moment-là, donc, la BCE intervient en fournissant des prêts aux banques, et donc avec des opérations inusuelles, qui sont des opérations à taux fixe, et donc dans lesquelles la liquidité donnée à la contrepartie, donc donnée aux banques, est entièrement déterminée de la demande des banques. Donc, si la banque veut 100, il aura 100. Si la banque veut 200, il aura 200, mais à un taux d'intérêt fixe. Et avec un horizon de prêt plus long que les opérations MRO, qui sont les opérations habituelles dans lesquelles la Banque centrale fait ses opérations de politique monétaire habituelles. Aussi, je vous avais donné ces graphiques, donc ça, enfin, je répète un peu ce que j'avais dit la fois dernière, qui vous donne une idée quantitative de ce que je suis en train de dire. Donc ici, c'est les liabilities, donc la partie du passif de l'eurosystème, donc de l'ensemble des banques centrales dans la zone euro, en vert. Donc vous voyez comme cette... à partir, surtout après Lehman Brothers, donc les volumes des prêts de la BCE est augmenté énormément. Et là, remplacer les prêts, donc les liabilities des banques commerciales. Donc il y a une espèce, vraiment un effet de substitution. Donc ça augmente dans les bilans de la BCE, ça diminue dans les bilans des banques commerciales. Donc, c'est une substitution presque 1-1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, l'injection de liquidités, donc les banques centrales injectent de la liquidité pour faire des prêts aux banques, mais la liquidité dans les systèmes n'augmente pas beaucoup parce qu'en fait, c'est une substitution. Donc, la BCE prête des montants beaucoup plus élevés qu'auparavant, mais ces prêts sont compensés par des dépôts des banques qui disposent d'un surplus de liquidités. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces banques qui ont un surplus? Donc, il y a les banques qui ont besoin de liquidités, donc ils sont les banques qui reçoivent les prêts. Et les banques qui ont un surplus, qui est normalement prêté aux banques déficitaires, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déposer dans la banque centrale. Et donc, ça se manifeste comme un excès des réserves dans les bilans de la banque centrale. Donc, en fait, l'eurosystème est un intermédiaire majeur qui s'est substitué au marché monétaire. Et on appelle la liquidité excédentaire les montants de crédit accordés au-delà du besoin net de liquidité de l'ensemble du secteur bancaire. Donc, en fait, comme conséquence de ces politiques, on a une liquidité excédentaire, que c'est donc les réserves excédentaires des banques qui ont un surplus de liquidités et qui ne vont plus prêter aux autres banques parce qu'ils se méfient, parce qu'il y a un risque de contrepartie, il y a un risque généralisé. Et donc, c'est effectivement quand il y a ces risques que les systèmes interbancaires ne marchent pas. Et donc, la BCE se substitue au système privé, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était en fait la première réponse de la BCE. Quelques observations. La BCE a eu une longueur d'avance sur les autres grandes banques centrales, donc en particulier la Federal Reserve aux États-Unis, parce que la BCE disposait d'un budget plus important. Et donc les bilans de la BCE étaient plus élevés et il avait une plus grande capacité à absorber des chocs de liquidité. Et ça, c'est en partie lié au fait que la BCE, avant la crise, avait une politique visant à payer un taux d'intérêt sur les réserves déposées chez elle. Okay? Donc, la Banque fédérale aux États-Unis n'avait pas ça. Donc, il n'y avait pas un taux d'intérêt des réserves. Donc, en fait, avec un taux d'intérêt des réserves, il y a un intérêt des banques avec la liquidité excédentaire à déposer chez la BCE parce qu'il reçoit donc un taux. Et en fait, la Federal Reserve va adopter cette politique en 2008, en fait, ils suivent l'exemple de la BCE. Un autre aspect important du système opérationnel de la BCE est qu'elle était partie d'une définition des garanties plus large dans ses opérations. Donc, elle a cité donc elle avait donc les garanties sur ses opérations monétaires étaient c'est une définition plus large. Donc, ils acceptaient tout genre de titres, etc. Et par rapport à ce qu'était le système aux États-Unis. Donc, ça a permis à la BCE d'adopter, et ça, en fait, c'est le conseil que je voudrais transmettre, d'adopter une politique visée à une crise de liquidité généralisée. Donc, la politique de la BCE, ce n'était pas de donner la liquidité à une particulière banque, ou sauver la banque X ou la banque Y, mais c'était de donner suffisamment de liquidités à tout le monde pour faire marcher les systèmes. Donc, dans ce sens-là, donc, la BCE, on peut dire, a répondu à une crise de liquidité généralisée en suivant les règles de Bagot qu'on a rappelées la fois dernière, donc, dans lesquelles donc, est conseillé aux banques centrales d'agir pour mettre fin à une crise de liquidité généralisée. Donc, c'est une espèce d'intervention comme préter de dernier recours. En fait, c'est une interprétation de la fonction du préter de dernier recours. Donc, la réponse de la BCE à cette crise de liquidité peut être considérée comme un succès. La BCE a agi de manière agressive et rapide parce qu'elle disposait de sept modèles opérationnels. Et en fait, comme Tommaso Padoa-Schioppa, qui était un des pères de l'euro, avait prédit en écrivant en 2004, donc beaucoup avant la crise, les modèles opérationnels de la BCE étaient bien préparés pour jouer les rôles de prêteurs de dernier ressort en cas de crise de liquidité généralisée. Et donc, cette anticipation de Tommaso Padoa-Schioppa s'est avérée véritable, même si à l'époque, en 2004, il y avait beaucoup de gens qui avaient critiqué la BCE, justement, pour n'avoir pas un mandat clair prêteur de derniers ressorts. On verra qu'en fait, l'ambiguïté ressortira plus tard quand la crise devient une crise différente, pas seulement une crise de liquidité généralisée, mais vraiment une crise de solvabilité dans laquelle certaines banques n'étaient plus viables. Et alors, à ce moment-là, bon, c'était la capacité de la BCE à intervenir est devenue beaucoup plus limitée. Donc voilà, ça, c'était un peu, en vitesse, un résumé de la dernière partie du cours l'autre fois. Mais je voulais aborder aussi deux autres sujets dans le cadre de la leçon 5. Et le deuxième sujet, c'était faire une comparaison un peu plus pointue avec ce que la Federal Reserve a fait dans la même époque. Et bon, le troisième sujet, c'est de chercher d'analyser cette politique des liquidités en la mettant en relation à la politique monétaire habituelle. En fait, du point de vue analytique, comment on comprend ce genre de mesures. Donc, venons donc au deuxième point, donc la comparaison avec la Federal Reserve. Et la question est en quoi la réponse de la BCE et de la Fed est-elle similaire? Enfin, j'insiste sur ces points parce que beaucoup de gens qui ont analysé la crise et la réponse européenne ont dit que la BCE n'a pas réagi suffisamment, de façon suffisamment agressive du début. Et le point de ma série de lectures, c'est exactement le contraire. Au début, la BCE a réagi très bien et en fait était un modèle pour la Federal Reserve. C'est seulement après, quand, en faisant face à des crises de solvabilité, qu'alors la BCE n'avait plus les outils parce qu'en fait, la crise était fondamentalement fiscale. Ce n'était pas une crise monétaire, mais c'était une crise de certaines institutions, de certains pays qui donc auraient dû être agressés par des outils plutôt du type budgétaire et fiscal et pas seulement de politique monétaire. Voilà, donc venons à la comparaison Fed-BCE. Donc, il faut dire qu'après après Lehman Brothers, donc en septembre 2008, quand Lehman Brothers fait faillite, donc c'était la première banque, grande banque internationale qui n'était pas sauvée par l'intervention soit de l'État, soit d'une banque centrale, toutes les grandes banques centrales du monde, enfin, la Fed, la BCE, mais aussi la Banque d'Angleterre, etc., ont mis en œuvre des mesures non standards impliquant des modifications des procédures et des outils utilisés pour mettre en œuvre la politique monétaire au-delà de ce qu'ils avaient fait en 2007 et 2008. Donc, Et donc, de telles modifications ont entraîné des changements majeurs dans leur rôle. En tant qu'intermédiaire sur les marchés monétaires interbancaires, comme on a vu, en tant que teneur des marchés pour les transactions sur titres, en tant que prêteur de dernier recours. So, les détails sont très différents de ce que les banques ont fait, mais en fait, les buts, l'objectif étaient très similaires. Donc, la Federal Reserve a dû mettre en place de nouveaux dispositifs pour faire face à la crise de liquidité des banques. Donc, elle a fait quelque chose de très proche à ce que la BCE a fait, en mettant donc en place tout un nouveau système qui s'appelle Term Auction Facility. Donc, c'est un système de vente aux enchères à terme. Donc, c'est un nouveau programme de liquidité. Et donc, à travers les TAF, donc les Term Auction Facility, la Fed a mis à disposition des banques des prêts de 4 semaines, des prêts de la Fed. Et donc, on a donné aux banques l'accès à ce qu'on appelle la fenêtre d'escompte, je pense, la fenêtre d'escompte, par les biais d'un système d'enchères. Et là, le problème, c'était en fait, qu'avant de mettre en place ce système, les banques américaines allaient très rarement à cette fenêtre d'escompte parce que la façon de, quand ils se manifestaient, donc ça, c'était un signal pour la compétition que donc, ils étaient des banques qui avaient besoin de liquidité, donc ils n'étaient pas solides. Donc, il y avait un stigma attaché au recours à cet outil. Et donc, par contre, la BCE avait ce système de généralisé, donc il y avait donc anonyme. Donc, la Fed a fait exactement, donc a pris le modèle de la BCE pour avoir justement un système dans lequel ils pouvaient donner de la liquidité sans indiquer la banque particulière, donc sans donner une information au marché qui aurait pu être négative pour la banque en question. Donc, parce que l'idée, c'est justement, c'était que c'était un problème de liquidité et pas le signal que la banque était presque un défaut. Donc, le fait que la BCE était plus disposée que d'autres banques centrales à faire face à la situation est démontré par le fait qu'en fait, la BCE, dans les années que je suis en train de décrire, n'a jamais était impliqué dans les sauvetages d'une institution isolée. Par contre, la Banque d'Angleterre et la Federal Reserve, ils étaient obligés à agir par rapport à des banques isolées. Et donc, c'est seulement avec un retard qu'ils ont mis en fonction ces autres outils. Je vous donne un exemple, parce que c'est l'exemple le plus connu aux États-Unis, et donc c'est la situation de la banque Bear Stearns. Donc, Bear Stearns a eu une crise de liquidité dans cette période, donc c'était l'été de 2008. Et la Fed est d'abord venue au secours de Bear Stearns par le biais d'un prêt de type face-à-face, back-to-back, impliquant JP Morgan. Cela impliquait un prêt à court terme à JP Morgan, qui prêterait ensuite à Bear Stearns contre des garanties. C'était une façon de traiter un problème de liquidité, mais les risques de crédit étaient également impliqués. Donc, c'était vraiment la limite de ce qu'une banque centrale peut faire. Parce que c'est une banque presque en faillite, donc il lui donnait des liquidités avec garantie, mais en prenant un risque de crédit sur les bilans de la BCE, donc avec un risque éventuellement pour les taxpayers. Donc, en fait, Tim Geithner, qui était le président de la Fed de New York, dans son livre, qui est un livre très intéressant sur cette époque, je vous conseille de lire, dit, et je cite, « Nous savions que nous allions franchir la ligne que la Fed n'avait pas franchie depuis la Grande Dépression, en prêtant indirectement à une maison de courtage censée fonctionner en dehors du filet de sécurité des banques. » Donc, ces stratagèmes n'ont pas empêché à Bear une panique bancaire et finalement, l'accord conclu consistait en la Fed aidant JP Morgan à acheter Bear Stearns. Vous comprenez qu'une intervention de ce type en Europe aurait été assez controversée parce que les banques sont localisées dans un pays ou l'autre, donc n'importe quelle intervention, donc toutes les interventions qui ont un couleur de solvabilité, enfin de sauver une institution qui n'est pas viable et que peut-être, en donnant des crédits dans un pays ou dans une institution particulière, évidemment, c'est controversé en général, mais c'était plus facile pour la Fed de la faire que pour nous de la faire. Donc, en fait, l'opération Bear Stearns, bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une opération de sauvetage, c'était un moyen de protéger les créanciers, autres institutions financières, en évitant la faillite et en facilitant l'acquisition de Bear Stearns par JP Morgan. Et en fait, fait très intéressant, le trésor américain est resté en dehors de l'accord parce qu'en fait, une intervention de ce type-là n'aurait jamais été approuvée par le Congrès américain. Donc, en fait, si on fait intervenir vite, c'est la Banque centrale qui intervient, même si, en faisant ça, donc, il prend des risques. Et en fait, les Congrès n'auraient jamais, donné le feu vert au Trésor, même si c'est une intervention qui est dans les dessins institutionnels, ça devait être le Trésor intervenir et pas une banque centrale, parce que la banque centrale doit intervenir pour la liquidité, mais pas pour la solvabilité. Donc il y a toujours cette distinction un peu académique entre les deux choses. Donc, ça c'était l'été, c'était avant Lehman Brothers, avec l'effondrement de Lehman Brothers. La nature de la crise changea. Donc voilà, vous voyez donc la différence. Donc avec Lehman, donc les risques du marché, ça prend vraiment une autre dimension. Et donc qu'est-ce que fait la BCE après Lehman? Donc la BCE continue à faire la même chose, ce que j'ai décrit. Donc essentiellement des opérations à taux fixe garantis. Donc c'était des repos. En revanche, la Federal Reserve se comporte très différemment. Et là, il y a donc une différence importante. Parce que donc la Federal Reserve effectue des achats fermes des bons du Trésor. Donc, c'est ce qu'on appelle outright purchases, pas des repos, mais donc des achats dans les marchés. Et en particulier, dans ces périodes-là, est particulièrement active en achetant des titres adossés à des actifs. Je pense que ça, c'est la traduction française. So it's asset-backed security. Okay. Et donc, ça, c'est un nouveau programme qu'elle met en œuvre qui s'appelle TALF. À la place donc, d'opérer à travers les banques, il va directement sur les marchés pour acheter donc, des actifs qui étaient, en fait, pour lesquels les marchés étaient pratiquement morts. Personne n'achetait ces actifs. Donc, avec ces achats, la Federal Reserve ressuscite, si vous voulez, ces marchés. Alors, pourquoi la Fed intervient directement sur les marchés et la Banque centrale européenne directement sur les banques? Donc, ça aussi, dans la presse populaire, était très critiqué en disant que la BCE, c'est une amie des banques, donc il donne de la liquidité aux banques. Mais ce n'est pas ça l'histoire. En fait, la grande différence, c'était comme l'a vu, que le système financier européen est surtout basé sur des banques. Donc, le financement des entreprises est à travers les prêts bancaires. Par contre, aux États-Unis, et je vous ai donné des données la fois dernière, les entreprises se financent à travers les marchés. Donc, c'est un autre système financier, donc c'est assez logique que la Fed intervienne directement sur les marchés. Donc, voilà. Donc l'intervention de la Fed, c'était surtout sur ce qu'on appelle residential mortgage-backed security. Donc, sont des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles. et qui sont très importants pour les financements, pour les systèmes financiers américains. Donc, c'est surtout sur là qu'ils ont agi. Voilà. Et donc, en fait, si on veut regarder la différence entre qu'est-ce qui se passe après Lehman dans les deux systèmes, alors ça, c'est les bilans de leur système. Donc, vous voyez que les bilans augmentent après septembre 2008. Donc, vous avez clairement une augmentation. Vous avez les actifs en dessous du zéro et les passifs en bleu. Bon, et donc, il y a deux choses dans ces graphiques. La première chose, c'est la taille. Donc, la taille augmente. Mais aussi, vous voyez que c'est beaucoup plus coloré aussi. Donc, que la composition a changé aussi. Et quelle est la composition? Donc, à la place, donc l'augmentation, c'est le rosé là, que c'est Long-Term Refinancing Operation, donc les LTRO que j'ai décrit, donc cette opération à taux fixe et avec un horizon plus long. Maintenant, évidemment, si les actifs augmentent, aussi les réserves augmentent. Et donc, vous voyez que donc les Deposit Facility, c'est ce bleu ici, aussi augmente, et ça, c'est les excess réserves du système bancaire. Donc, les banques qui avaient des surplus qui déposent les excess réserves près des banques centrales. Voilà. Donc, en fait, il y a une discontinuité pré-Lehman et post-Lehman. Donc, dans post-Lehman, c'est un recours très important, c'est faciliter des dépôts. Ça, c'est le bilan de la Federal Reserve. Donc, avant Lehman, c'est surtout ces TAF que j'ai décrit, qui sont des opérations de liquidité très proches à ce que la BCE et l'Eurosystème fait. Et après Lehman, vous avez quelque chose de beaucoup plus coloré, là. Et donc, on a les TAF, encore de la liquidité, mais aussi on a les MBS, donc les Mortgage-Backed Security, donc les achats de ce genre de Mortgage-Backed Security. Et voilà. Donc, en fait, la Fed, ce qu'il a fait, est aller dans les marchés directement faire des achats sur les marchés qui étaient moribonds, enfin presque morts, et à chercher de revitaliser ces marchés en créant donc de la demande. Donc, évidemment, il a pris un risque en faisant ça. Mais en fait, quand les systèmes est sorti de la crise, en fait, la Fed a gagné beaucoup d'argent sur ses achats parce que les taux d'intérêt sont... Donc, les prix sont remontés, les marchés étaient revitalisés. Voilà. Donc, en résumé, il y a des similitudes entre la BCE et la Fed. Les similitudes sont qu'on a eu une modification substantielle de la composition des avoirs, en commençant par pré-Lehman, mais en s'intensifiant après Lehman. Et du côté du passif, on a constitué des soldes de réserve et post-Lehman, dans les deux cas, sont devenus rémunérés. Aussi aux États-Unis, sont devenus rémunérés. Il y a quand même aussi des différences. Et il semblait, en fait, on a dit... que la Fed a fait plus, elle était plus active. Mais en fait, ça dépend de comment on mesure. Et ça, vous pouvez voir dans ce graphique ici, qui vous donne le total des actifs de la Banque centrale par rapport au PIB nominal. Et donc, vous voyez qu'on pourrait dire que... Donc, ça, c'est 2007 et ça, c'est 2008. Hein. Donc, c'est vraiment où les bilans augmentent dans les deux cas, ici pour la Fed, ici pour la BCE. C'est à partir de la crise de Lehman qui donc a mis à presque tuer les systèmes financiers. Donc, on pourrait dire, en fait, que la différence est plus importante dans les cas américains, donc l'augmentation de la taille du bilan. Mais en fait, la BCE venait d'une situation où les points de départ étaient différents. Elle avait déjà un bilan très grand, beaucoup plus grand que celui de la Fed, pour des raisons historiques. Donc, en fait, c'est pas clair, en fait, si vraiment la Fed était plus active ou pas. On verra qu'après, donc, il y aura après la BCE s'endormit un peu, mais plus tard, en fait. Mais à ce moment-là, moi, je dirais que c'est plutôt une banque centrale très active et très, avec un système opérationnel qui était très prêt pour ce genre de crise. Donc, cette phase, j'insiste, c'est une phase dans laquelle on ne parlait pas de la crise grecque, de la crise de la banque ici. Enfin, c'était une phase dans laquelle la BCE a pu agir dans le cadre de son mandat, autant que provider of liquidity et prêteur de deniers recours. Donc, en suivant vraiment le textbook de ce qu'une banque centrale doit faire quand il y a une crise de liquidité généralisée. Donc, c'était dans le cadre de son mandat et c'était pour ça qu'elle était efficace, parce que ce n'était pas tellement controversé d'agir de cette façon-là. Même les Allemands étaient d'accord, en fait. Donc. Voilà. Venons maintenant au troisième point que je voulais toucher l'autre fois. Et c'est donc chercher de comprendre ces politiques par rapport à la politique conventionnelle de taux d'intérêt que j'ai décrit, je pense, il y a 2 semaines, avec le Taylor Rule et tout ça. Donc, derrière la motivation de ces politiques non conventionnelles, dans les deux cas, de la Fed et de la BCE, c'était deux motivations. La première motivation est de dire, bon, il y a une récession, une crise, donc les taux d'intérêt directeurs, donc c'est que les taux d'intérêt de la Taylor Rule que j'ai expliqué l'autre il y a 2 semaines, va à zéro. Parce qu'en fait, pour stimuler l'économie, donc qu'est-ce qu'elle fait la banque centrale avec la banque, les outils traditionnels pour une banque centrale, c'est les taux d'intérêt directeurs, donc c'est dans le cas de la BCE, c'est les MRO, donc sous le. Et donc, en juillet 2008, la Banque centrale européenne se trompe, donc augmente ses taux d'intérêt, en même temps qu'elle est en train de faire les politiques de liquidité. Mais après, quand la récession était évidente, donc toutes les banques centrales, en coordonnement, ils baissent les taux d'intérêt directeurs. Et les taux d'intérêt directeurs vont pratiquement à zéro. Bon, dans la zone euro, pas vraiment à zéro, mais presque à zéro. Aux États-Unis, à zéro. Donc, quand le taux d'intérêt est à zéro, pour stimuler ultérieurement l'économie, en utilisant les outils traditionnels, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller dans un taux d'intérêt négatif. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant. Okay. Mais on est allé là plus tard, hein, parce qu'on verra que donc, maintenant, on a un intérêt négatif sous les dépôts des banques auprès de la BCE. Mais, donc, en fait, quand on est autour des zéros, la politique monétaire, ça ne devient pas très efficace. Et donc, enfin, la politique monétaire traditionnelle. Donc, il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est prêt plus à long terme, comme la BCE a fait. Donc, on prête directement aux banques à long terme ou on fait des achats d'actifs. Donc, on a comme la Fed a commencé pour asset-backed security. Plus tard, donc, elle s'est lancée plutôt dans les marchés des obligations souveraines. À partir de 2015, la BCE suivra cet exemple. Mais donc, ce sont des politiques qui n'étaient pas des donc, c'est une politique sur lesquelles on connaît très peu. Donc, il n'y a pas beaucoup d'expérience sous ce genre de choses. Donc, ça, c'est la première justification. Donc, on fait des autres choses parce que les taux d'intérêt à court terme est presque à zéro et donc, on ne peut plus les baisser. On ne peut pas les baisser ultérieurement. La deuxième motivation, c'est qu'en fait, c'est même si les taux d'intérêt n'est pas exactement zéro, Dans une crise financière, c'est important d'assouplir les conditions des crédits où elles sont devenues tendues. Donc, en fait, on peut décrire ces politiques comme un assouplissement du crédit. Donc, ça, dans ces façons-là, on peut voir ces politiques d'assouplissement du crédit, soit avec les achats de mortgage-backed securities, soit avec les prêts bancaires. Ils sont complémentaires par rapport à la politique traditionnelle des taux d'intérêt. Et en fait, aujourd'hui, donc ça, ce n'est pas vraiment le bout de ce cours de discuter, mais en fait, aujourd'hui, les banques centrales se demandent que même dans une situation de normalisation, comme on espère qu'on n'aura pas une autre énorme crise financière demain, mais donc dans une situation de normalisation comme on est aujourd'hui, ces outils d'assouplissement du crédit qui sont complémentaires à la politique de taux d'intérêt peuvent être utilisés aussi en temps normal. Donc, elle s'appelle ça les new normal. Quelle est the new science of monetary policy? Donc, en fait, il y a, tout le monde des banques centrales maintenant s'interroge sur ce point-là, okay? sur une grande modification. On a appris beaucoup de choses pendant ces 10 années et donc on est en train d'y réfléchir. Alors, donc c'est très important comprendre cette histoire de comment l'assouplissement marche. En fait, parce que la première motivation, je pense que c'est très clair à comprendre. Les taux d'intérêt sont à zéro, donc on fait autre chose. Mais la complémentarité, en fait, est plus compliquée à comprendre. Donc, et je voudrais vous la expliquer par rapport à la petite explication qu'on avait faite sur les taux d'intérêt et la règle de Taylor. Donc, l'assouplissement peut être compris comme une politique des taux d'intérêt, en fait aussi comme une politique des taux d'intérêt, mais visant à influencer la structure des taux d'intérêt du marché monétaire, donc les écarts entre les différents intérêts. Et donc, dans une situation dans laquelle les marchés financiers ne marchent pas correctement, donc il y a des frictions, mais ça peut être aussi dans des situations de relative normalité. Donc, les écarts entre les différents taux d'intérêt, ils sont pas stables. Donc, la banque centrale peut agir sur ces écarts. Alors, regardons ici. On a la règle de Taylor pour le taux d'intérêt, comme on a dit l'autre fois. Ça peut se décrire comme, donc, c'est une règle de politique monétaire, ça peut être décrit comme une fonction entre les taux d'intérêt à 3 mois, donc typiquement l'Euribor à 3 mois, et les taux d'inflation et les output gap, donc une mesure du slack dans l'économie. Donc c'est pi grec, c'est pour l'inflation, et y, okay, c'est le slack dans l'économie. Donc ça, c'était notre règle de Taylor, et normalement, enfin, évidemment, la banque centrale, comme on a dit, elle n'a pas contrôle sur les Euribor, mais elle a un contrôle sur les taux overnight, sur les taux d'intérêt de policy. C'est un taux directeur sur les overnight, okay, donc très, plus à court terme. Mais donc, ce qui importe pour l'économie réelle, c'est l'Euribor, parce que beaucoup de prêts bancaires sont indexés à l'Euribor. Donc, en fait, normalement, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il y a un écart stable entre les taux d'intérêt des policy et les taux d'intérêt de l'Euribor. Et si le taux d'écart est stable, en influençant les taux d'intérêt de policy, on a aussi influencé les Euribor, que c'est ce qui est important pour les prêts bancaires. Donc, dans une crise financière, cet écart que j'appelle alpha, ça devient n'importe quoi. Et donc, je vous montrerai maintenant une graphique en montrant ce point-là. Et donc, la politique monétaire, ça devient les cibles de la politique monétaire deviennent alpha. Donc, en intervenant directement sur des marchés particuliers, on arrive à contrôler l'écart entre taux d'intérêt et donc toute la structure des taux d'intérêt à court terme. Donc, on peut analyser ces politiques non standards qui ont été mises en place pendant cette période comme des politiques ciblées à manipuler cet alpha. Donc, si vous voulez, la politique conventionnelle est chercher d'affaiblir les taux directeurs. Par contre, la politique non conventionnelle est essayer de réduire les alpha, donc l'écart entre les taux d'intérêt. Regardez ici. Donc, qu'est-ce que c'était les écarts dans ces périodes-là? Donc, on a les main refinancing rate, qui donc c'est les taux de c'est le taux de policy. Ça, c'est le bleu. Et on a les Eonia, qui c'est les taux de marché overnight. Ça, j'avais décrit l'autre fois. Et on a les Euribor rate, qui c'est un taux d'intérêt plus à 3 mois. Donc, c'est à plus long terme. Donc, en fait, on a deux spreads, deux écarts. L'écart entre les Euribor à 3 mois et les MRO. Donc, ça reflète la pente de la courbe des rendements. Et l'écart entre MRO et Eonia qui reflète un stress de liquidité. Pourquoi l'écart entre MRO et Eonia reflète le stress de liquidité? Alors, ici, en fait, j'ai déjà décrit cette graphique. Ça, c'est les couloirs, les fameux couloirs, hein, vous vous rappelez. Donc, ça, c'est les taux directeurs, donc c'est les taux de policy, c'est les jaunes. Dans une situation normale, donc, regardons avant la crise, donc, la BCE arrive très bien à contrôler les taux des marchés, que c'est les bleus, c'est les Eonia, overnight. Avec ce système d'enchères. Donc, avec la demande et l'offre, donc ils arrivent à avoir un taux de marché qui est autour de ce qu'ils veulent que ce soit. Et après, bon, il y a les taux de dépôt et les taux de prêts, et voilà, c'est un système de couloirs, et donc, comme on avait décrit. Dans une situation de stress de liquidité, il y a donc, ces situations dans lesquelles les banques qui ont l'excès de liquidités ont une préférence pour les réserves. Et donc, il y a cette histoire de demande et d'offre de liquidités fait si que les taux de marché overnight est poussé vers la limite inférieure qui est donnée par les taux d'intérêt des réserves. Il y a une énorme préférence vers les banques de mettre l'argent dans les caisses de la banque centrale. Et ça, donc, fait si que donc, les taux d'intérêt des marchés, les ONIA, donc, devient très proche au taux d'intérêt, au plafond, que c'est le taux d'intérêt sur les réserves sanitaires. Donc, vous voyez que aussi, ça, c'est l'autre écart. Donc, il y a un écart entre un taux à court terme, overnight, et un taux à 3 mois. Donc, ça, c'est les taux atteints, soit la pente de la courbe. Et un autre écart, que c'est l'écart entre l'Eonia, donc le bleu et le jaune, qui est le taux directeur, qui se donne une idée du stress des liquidités. Donc, la banque centrale peut jouer pas seulement sur un taux, mais sur l'ensemble des taux, et on peut comprendre la politique non conventionnelle comme une politique visée à contrôler toute la structure des taux avec des outils différents. En fait, ici, c'est vraiment l'offre et la demande de liquidité. Donc, la BCE offre la liquidité en abondance. Donc, les taux sur cet marché donc, baissent. Il ne peut pas baisser en dessous du taux du noir, que c'est le taux d'intérêt sur les réserves excédentaires. Donc, on reviendra sur cette histoire, mais je vais anticiper peut-être un truc, que si on est habitué à penser à la politique monétaire comme une politique basée sur les jaunes, sur les taux d'intérêt, donc c'est le taux d'intérêt que les Governing Council déclarent, mais maintenant, c'est plus le cas, parce qu'en fait, les taux des marchés, depuis, ici, c'est janvier 2018, hein, les vrais taux, les taux qui comptent pour les marchés interbancaires, c'est les taux sur les dépôts. Donc, en fait, il y a deux taux. Il y a le policy rate, mais il y a aussi les taux d'intérêt sur les réserves. Donc, maintenant, les banques centrales, ils n'ont pas seulement un taux, mais ils ont deux taux. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas bien compris parce que bon, les journaux, ils parlent seulement du taux d'intérêt. Mais en fait, les taux qui vraiment est important pour Léonie, c'est les taux d'intérêt sur les réserves. Et c'est donc c'est une nouvelle outil qui maintenant est beaucoup utilisé et donc il y a un écart persistant entre ces deux taux. Je reviendrai sur ce point parce que c'est important. OK. Donc l'essentiel de la réponse des banques centrales, c'est une augmentation et ça tous les banques centrales, l'augmentation de l'intermédiation sur le marché monétaire. Donc, satisfaire la demande des réserves, absorber les excès des besoins des réserves de manière passive, donc dans tout ce qui veut déposer, ça va. Alléger les contraintes de liquidité sur les bilans du secteur financier privé, donc avec liquider les actifs non liquides, reconnecter les chaînes d'intermédiation. Donc, ça, c'est en général, on peut décrire ce genre de politique dans cette façon-là. Donc, l'action des banques centrales a eu un incident sur les bilans, comme on a vu, mais a aussi comprimé les écarts du taux du marché monétaire. Et en fait, on peut voir ici que donc, les spreads de 2008, etc., comme conséquence de l'action de la BCE, sont descendus. Enfin, ne sont pas revenus à la situation avant crise, mais quand même sont descendus beaucoup. Et donc ça veut dire que donc il y a ça c'est un assouplissement des conditions de crédit, hein, parce que et donc ça c'est une façon, si vous voulez, de décrire l'idée de ces politiques. Ok, ça c'est l'impact sur les marchés financiers. Mais ces politiques ont eu aussi un impact sur l'économie réelle. Alors, c'est très difficile d'établir des liaisons causales entre les politiques et les effets. Donc, il y a beaucoup d'études qui cherchent de faire ça de façon différente. Je vais donner enfin, l'intuition d'une étude que j'ai faite avec des coéthères, dans lesquels on cherche de mesurer l'effet de ces politiques extraordinaires avec un exercice contrefactuel. Contrefactuel, oui. Donc, on a un modèle empirique dans lequel on a plusieurs variables sur les prêts bancaires, sur les taux d'intérêt, et aussi sur des variables des économies réelles, donc les PIB, etc. Et donc, on construit, donc on observe, ça c'est les prêts bancaires, donc on observe ce qu'on aurait pu s'attendre, donc it's a conditional expectation, donc c'est une espérance conditionnelle. On pourrait pu s'attendre sans les politiques. Donc, sur la base de la situation économique, comment on l'avait observée jusqu'à la fin de 2008. Et sans des opérations extraordinaires, donc, les prêts bancaires auraient été beaucoup plus faibles que ce qu'on a vu. Il prend trop de temps pour décrire le modèle, mais en fait, c'est quand même une référence à la littérature. Il y en a d'autres dans lesquelles on cherche d'établir des relations de causalité entre les politiques et les effets. Ici, sur la base du même exercice, donc on arrive à mesurer un choc des politiques extraordinaires et l'effet dynamique sous différents types de prêts. Et donc, on voit que l'effet était surtout sur les prix d'entreprise, pas tellement sur les prêts de ménage. Okay, ça, c'est les résultats que nous avons obtenus, mais ces résultats sont compatibles avec des autres études dans la littérature. Si vous voulez, on peut simplement regarder les données sans faire des exercices plus sophistiqués. Ça, c'est les PIB, la croissance trimestrielle du PIB, PIB, de bruit intérieur. Donc, les rouges, c'est la zone euro, les bleus, c'est les États-Unis. Ici, sont les récessions. Vous voyez, bon, la récession, bon, on a eu une récession profonde dans les deux cas. On a tous les deux économies, ils ont eu une reprise plus ou moins similaire. Et en fait, dans cette période magique, que c'est la période, la phase 1 de la crise, vous voyez qu'en fait, la zone euro, ça reprend et donc elle bouge plus ou moins en cohérence avec les États-Unis. Donc, en fait, après, les choses changeront. Et donc, maintenant, on va arriver à cette période-là où, en fait, la réponse était beaucoup moins convaincante. Mais donc, ça, c'est ma premier cas. En fait, Messier Trichet était nommé les banquiers de l'année et était exactement parce qu'il était à l'avant-garde des réponses, parce que c'était la première crise de la zone euro. Et en fait, la Banque centrale européenne est sortie de cette expérience comme une banque centrale solide et capable de répondre à une situation d'énorme stress. Voilà. Donc, fonction de stabilité financière et fonction macro, toutes les deux choses dans la même direction, Trichet en grand euro. Voilà. Donc, maintenant, on vient à la phase 2. Et donc, je termine la leçon 5, j'arrive à la leçon 6. Et voilà. Et là, donc, la leçon, si vous voulez, donc, de l'expérience de 2007-2010 a été couronnée de succès. Et voilà. Et la question est qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, encore, je vais citer Padoa-Schiop, qui disait, enfin, de ce qu'il avait écrit avant, parce que... Et donc, en fait, il avait suggéré que les opérations des marchés visant en particulier à préserver des conditions de liquidité adéquates reste l'outil central des banques centrales et la BCE, donc il maintenait, disposait d'un cadre opérationnel qui lui permettait de jouer ses rôles de prêteur en dernier ressort dans ces contextes. Et donc on avait vu en fait qu'il avait raison et que donc ça a bien marché. Bon, le problème c'est est-ce que ça a été suffisant? Et répondre à cette question nous permet de prendre du recul. Maintenant qu'on commence à parler de la deuxième partie, on doit voir que c'est beaucoup plus difficile parler de la deuxième partie de la crise parce que l'action de la Banque centrale doit être comprise comme un élément d'une réponse plus large des autorités politiques. C'est très difficile d'évaluer l'efficace de la BCE sans évaluer tous les contextes, ce que faisaient les gouvernements, qu'est-ce qu'ils faisaient, les restes dans toute l'appareil européen par rapport à la politique budgétaire et par rapport à la politique bancaire. Compte tenu des problèmes de solvabilité qui ont affecté de nombreuses institutions financières, Les budgets donc des différents pays également étaient fortement mobilisés pour stabiliser les secteurs financiers. Donc les pays sont intervenus pour sauver leurs banques. Et en principe, la répartition des responsabilités était claire. Les banques centrales traitaient des problèmes de liquidité, les autorités fiscales, les problèmes de solvabilité. Mais de facto, cette différence n'était pas si claire, et en fait, en Europe comme aux États-Unis. Donc, on était dans les deux situations, une situation très similaire. Mais évidemment, c'était beaucoup plus difficile pour la BCE, étant donné qu'on est une union monétaire asymétrique avec sans une autorité budgétaire commune. Donc, si je retourne un moment dans la période 2008-2010, il faut savoir que, et je vais revenir aux banques pour une minute, dans la zone euro, on peut distinguer deux ensembles de banques. D'un côté, il y a les grandes banques, surtout beaucoup des banques françaises qui sont des grandes banques, qui étaient devenues surexposées à la faiblesse potentielle du crédit de la périphérie de la zone euro, donc la Grèce, l'Irlande, l'Espagne, parce que, en fait, une des conséquences de l'intégration monétaire européenne était l'importance progressive du financement transfrontalier donc, et de wholesale funding. D'autre part, il y a aussi en Europe beaucoup de petites banques locales. Les banques locales des pays périphériques se finançaient sur le plan international et prêtaient sur les marchés intérieurs. Et il avait développé des expositions directes à des secteurs trop étendus au niveau de la vente au détail. Par exemple, les caisses d'épargne espagnoles détenaient des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux qui étaient très risqués et qui avaient rendu leur bilan très fragile. Donc, lorsque la crise arrive et met à jour ces fragilités, les gouvernements ont agi en conséquence des ressources considérables au bail-out. Donc, les gouvernements interviennent pour sauver les banques, et, soit avec des garanties, soit des injections de capital direct, etc. Je vais vous donner quelques exemples, parce que cette réponse des gouvernements à la crise était après liée à ce que la BCE a fait après. Donc maintenant, vous savez, nous avons une union bancaire, et donc l'Europe s'est donnée à changer les règles dans lesquelles les gouvernements peuvent intervenir pour sauver leurs banques. Maintenant, on a les principes du bail-in. Donc, avant que le gouvernement agisse, donc les créditeurs doivent supporter les pertes. Mais à l'époque, il y a eu en Europe, comme aux États-Unis, énormément de bail-outs qui donc ont coûté beaucoup d'argent aux taxpayers. Et donc, ça, c'était une des grandes controversées de la crise. Donc, on arrivera à parler de l'union bancaire plus tard. Et voilà. Donc, ça redevient, même aujourd'hui, un grand débat. Jusqu'à quelle est donc la justification pour l'intervention de l'État pour sauver les banques. Donc, j'ouvre cette petite parenthèse et quelques exemples, mais je suis sûre que vous vous en souvenez. Par exemple, Fortis. En septembre 2008, Fortis reçut un financement d'urgence des gouvernements belges, néerlandais et luxembourgeois. C'est une banque transfrontalière. Et peu après, le gouvernement allemand a étendu les garanties à Ipoh Real Estate Bank dans le cadre d'une prise de contrôle privée. Elle a suivi l'injection des capitaux publics dans les sociétés néerlandaises ING, la belge KBC, la néerlandaise Aegon. En Irlande, qui a connu la pire crise financière, le gouvernement a réagi en renflouant 64 milliards de dollars pour sauver son système bancaire. Donc, de 2008 à 2010, les ressources en faveur du secteur financier on a représenté presque 100% du PIB de la zone euro. Donc, ici, c'est une table, c'est très intéressant de savoir que quand un gouvernement entre dans les capitales d'une banque ou avec des garanties, donc ça est comptabilisé dans les déficits publics, mais pas dans la dette publique. Donc, si vous allez... Donc, normalement, la dette publique, ça doit être la somme des déficits publics. Donc, c'est un stock. Mais en fait, les deux chiffres de la somme des déficits et de la dette ne correspondent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a ce stock flow adjustment. Qu'est-ce que c'est, ce stock flow adjustment? Ça, c'est exactement donc, toutes les garanties et l'intervention du secteur public dans les différents pays européens en faveur des banques. Donc, ça, c'est des données que j'ai reprises de la source, c'est l'Eurostat. Vous voyez, en fait, un pourcentage du PIB. Donc, quel est cet écart entre les stocks et les flots, donc, qui plus ou moins correspond à l'intervention implicite des gouvernements en soutien du secteur bancaire. Et vous voyez, en fait, bon, l'Irlande, c'est énorme. En 2008, c'est plus de 10% du PIB. Mais l'Allemagne, c'est aussi énorme. En 2010, c'est 7,5. Et au cumulé, donc 2008-2011, l'Allemagne, c'est 3%, c'est plus que 3% du PIB. En fait, la France s'en sort très bien parce que bon, les banques françaises étaient en meilleure situation que les banques allemandes, les banques espagnoles et les banques irlandaises. Et aussi, l'Italie s'en sort pas mal. L'Italie a des problèmes maintenant, mais à l'époque... donc, en fait, ça, c'est une des choses que les Italiens disent toujours. Hein, eux, ils n'ont pas dépensé de l'argent pour sauver les banques à l'époque, donc maintenant, ils peuvent le faire parce qu'ils ne l'ont pas fait avant. Ce n'est pas une bonne justification. Bon, et, donc, en fait, ce soutien du système bancaire... ici, je ne suis pas en train de parler de BCE, je parle du secteur public, mais... C'est important de donner ces contextes pour comprendre après l'action de la Banque centrale. Donc, voilà, ça c'est l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis ? Aux États-Unis, ils ont eu, en fait, ils étaient beaucoup plus efficaces que nous dans ce sens-là. Parce qu'ils ont en fait mis, ils ont immédiatement mis beaucoup de ressources pour sauver les banques, en fait de façon systématique, avec un programme qui s'appelle TARP. Mais en fait, un pourcentage du PIB. Leur intervention n'était pas si énorme que la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les banques aux États-Unis sont beaucoup moins importantes qu'en Europe. Parce que, bon, comme on a dit, c'est un système plutôt basé sur les marchés. Donc, après une première phase de désordre dans les problèmes d'institution, donc les trésors américains, en coordination avec la Banque centrale, donc, ça qui, pour nous, c'est impossible. Ça, c'est une action de coordination entre les pays, donc les gouvernements et la Banque centrale, adopter une approche systémique globale. Ils ont mis en place donc, un fonds pour la recapitalisation des banques. Ils ont agi en vitesse déjà en 2008-2009. Et donc, la Federal Reserve a joué un rôle... dans l'aide, donc dans les négociations avec les congrès américains, donc bon, la démocratie américaine, mais il a pris du recul, parce qu'en fait, quand il s'agit de sauvetage des banques, ce n'est pas la Banque centrale qui doit intervenir, parce que c'est un problème, c'est l'argent des contribuables qui est mis en péril. Et donc, ça, c'était quelque chose que nous, en Europe, on n'a pas encore. Donc, une façon d'agir dans un fonds de capitalisation commun pour la recapitalisation des banques. Évidemment, il faut savoir que ce n'est pas toujours une bonne idée de recapitaliser des banques avec des fonds publics. Mais dans une crise de la dimension de la crise de 2008-2009, agir en vitesse, rentrer dans le capital des banques et après en sortir aussi en vitesse, et nettoyer les bilans des banques, c'est une bonne idée parce que ça accélère le nettoyage du système financier. En Europe, chacun pays a fait ce qu'il pouvait. Donc, les petits pays, au fond, ils étaient beaucoup plus stressés parce qu'ils avaient un système bancaire beaucoup plus grand que la dimension, la taille du pays. L'Allemagne, c'était un grand pays, donc a pu absorber beaucoup de pertes de son système bancaire. Mais en fait, dans aucun cas, dans aucun des pays européens, on a eu une action suffisamment agressive pour nettoyer les bilans des banques par les prêts, les non-performing loans, par toutes les choses qui donc pas bonnes qui sont dans ces bilans bancaires. Et donc, en fait, ça a été un poids. En 2012, en 2013, en 2014, la Banque centrale européenne a dû agir dans une situation dans laquelle le système bancaire continuait à être très fragile et dans laquelle les gouvernements n'avaient pas eu soit le courage ou les ressources pour avoir une action plus agressive du style de l'action américaine. Donc, on peut dire que les TARP aux États-Unis étaient une véritable bazooka. Ils ont investi 700 milliards de dollars. Ils ont un horizon des acquisitions, des fusions. Donc, ils étaient très proactifs en reshaping the system. En fait, ils ont mis sur la table ces 100 milliards, mais en fait, ils l'ont dépensé beaucoup moins. Ils ont dépensé seulement 400 milliards. Et à la fin, ces coûts n'étaient pas énormes par rapport à la taille du PIB du pays. Donc, en fait, je pense que tout le monde considère cette expérience américaine de TARP un grand succès. Et dans les zones euro, comme j'ai dit, chaque gouvernement a fait ce qu'il pouvait, mais donc il n'y a pas eu une action concertée, ni sur les règles communes, ni sur les ressources communes pour résoudre ces problèmes. Donc, une chose, par exemple, les États-Unis sont intervenus avec cette bazooka, mais en même temps, ils ont fait des stress tests sur la situation des banques qui ont donné un sentiment au marché qu'effectivement, une clarté sur la situation des banques au marché et donc ont permis au système, aux investisseurs de retourner dans les marchés. Par contre, en Europe, on n'a pas eu le courage de faire le stress test parce que on n'avait pas nettoyé, donc on a retardé la chose. On a après fait un stress test qui n'était pas considéré véritable, et on est arrivé à faire un vrai stress test seulement en 2014 quand l'union bancaire était établie. Donc, en fait, la chose qu'on va développer dans les prochains deux cours, c'est en fait l'interaction entre l'efficacité de la politique monétaire dans ces situations de stress et des autres outils qui ne sont pas de la Banque centrale, mais qui sont des outils complémentaires sans lesquels c'est très difficile d'agir autant que Banque centrale. Je vais terminer parce que je vais quand même donner un petit espace à la discussion. Maintenant, donc, on rentre. Je vais donner un peu le background de ce qui s'est passé chez les banques. Donc, maintenant, on a parlé de 2007-2010. Je vais rester sur les banques, parce que je vais dédier une discussion séparée sur la question de la crise souveraine. Mais je vais maintenant arriver à 2011. Ok, on arrive à 2011. En 2011, qu'est-ce qui se passe? En 2011, c'est, donc, Trichet arrive à la fin de son mandat. Donc, en novembre 2011, il y a Draghi qui arrive comme nouveau président de la Banque centrale. Et à ce moment-là, donc, la chose que la BCE avait faite, c'est El Tiro, donc ces prêts bancaires qu'on a décrits, taux fixe, etc. Mais il n'avait pas fait autre chose. Donc, il avait, donc en 2010, en fait, on arrive à l'été 2010, disons, hein, parce qu'en 2010, il y a eu la crise grecque, donc la BCE était... Mais donc, au niveau des banques, au niveau des banques, il avait, en 2010, la BCE intervient sur les souverains, mais au niveau des banques, en fait, c'est, l'outil principal, c'était ces prêts à taux fixe par rapport aux banques. Que c'était un outil très approprié pour une crise de liquidité, mais maintenant, en 2011, avec ces situations de solvabilité des banques qui n'étaient pas adressées, la situation n'était plus la liquidité, mais était la solvabilité. Il y avait plusieurs de banques européennes qui n'étaient pas en état. Et là, quand les problèmes arrivent, donc qu'est-ce qui fait donc Draghi arrive, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait pas des choses au début, des choses très différentes de ce que Trichet avait fait. En fait, ce qu'il fait, il prend les opérations de refinancement que Trichet avait mis en place et allonge l'horizon à 3 ans. Donc, en fait, ça, c'était une grande facilité pour les banques, aussi pas pour la liquidité à court terme, mais aussi pour les soutiens à plus à long terme. Et voilà, et je veux simplement... Non, OK. Non, je pense que je vais terminer ici. Donc, ce qu'on développera la fois prochaine, ce sera de voir que ces opérations qui étaient en principe plus courageuse, enfin, je ne sais pas, de la première phase des heures l'été, en fait, ils n'ont eu pas beaucoup d'effets. Et donc, l'effet positif de la première phase, que j'ai cherché de démontrer, on ne la vérifie pas dans la deuxième phase. Et donc, il faut comprendre les pourquoi. Et donc, mon explication fondamentale, c'est que ces opérations ne sont pas les bonnes opérations pour adresser les problèmes de solvabilité, et que la Banque centrale ne peut pas résoudre ce genre de problème-là sans avoir des outils complémentaires, ce qui nous donne des éléments pour réfléchir sur ce qu'il faut faire pour rendre notre union monétaire plus robuste. Voilà. OK.